L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Et il est 12h35, passé de quelques petites prouettes comme ça, et on se retrouve avec Bernard Vacherot. La semaine dernière, vous nous énumériez tous ceux qui ont contribué à l'école, hein, à la transmission de savoir à travers les monastères, et en particulier la géométrie si utile pour comprendre les hectares, ne serait-ce que la rotation des sols, et puis calcul de parcelles, je soupçonne que le cadastre arrive là, et tout ça. Bon.
Tout arrive, et puis surtout, ça a été, je vous l'ai dit, philosophique, intellectuel et religieux, en même temps aussi, ça avait une dimension dans cet ordre-là. Rappelons-nous que les Grecs adoraient l'harmonie. Par exemple, le grand temple d'Athènes, est une perfection d'harmonie. La preuve, il a servi comme modèle pour faire ce que Napoléon voulait être un temple et qui est devenu l'église de la Madeleine. C'est une perfection d'harmonie. Idem pour le Panthéon à Paris.
Le Panthéon, je pensais au Panthéon. Oui. Bon, en même temps, Panthéon, ils auraient pu le rebaptiser quand même depuis le temps.
Ou le débaptiser pour le rebaptiser, peut-être.
Oui, parce que Panthéon, c'est terrible, quoi. Il y a tous les... Bon,
en même temps, Panthéos.
Ouais. Enfin, là, c'est les grands hommes, donc il faudrait trouver autre chose que Théos.
Peut-être.
Enfin, moi, ce que j'en dis...
Pananthropos.
Ouais. Bon, gardons Panthéon pour l'instant, tout le monde se sait.
Voilà.
Bon, oui, l'harmonie, le nombre d'or, tout ça a avancé d'un coup, là, avec des géomètres.
Mais fortement.
Et en le transmettant, on a progressé. C'est-à-dire que des gens qui intégraient les connaissances antérieures se sont mis eux-mêmes, je ne sais pas moi.
Et énormément, parce que.
Dans l'espace.
Justement, je veux pas faire de digression, mais quand même,
Si, par exemple, d'où sort pi?
Pi r carré.
D'où sort pi que les papes utilisent comme prénom? Je me suis toujours demandé, moi, pourquoi pi? Je connais
alors ça, c'est pas pi r carré, mais c'est pi, Petros, Petrus,
Pierre.
Voilà,
C'est un raccourci de Pierre. Ah oui, il n'y a pas de pape qui s'appelle
Pierre.
Mais
vous ouvrez là, quelque chose qui est intéressant. De penser à la pierre, élément architectural important, au pi, pierre, et au fait que, par exemple, le Christ, se définit lui-même comme pierre angulaire de l'Église. Or, la pierre angulaire dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas la pierre du fronton du temple, comme d'aucuns le pensent, c'était la pierre qui se trouvait dans le sanctuaire, le Saint des Saints, et sur laquelle on offrait le sacrifice. Pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre base de toute la civilisation israélite. Donc, le pied de Christ, pierre angulaire, voilà. Et en plus, vous voyez, il y a un sens extrêmement profond, si on veut réfléchir.
Oui, vous êtes en train de m'embrouiller, parce que
non,
pas la pierre angulaire.
Non, il y a...
C'est la pierre circulaire.
Non, je vous embrouille pas du tout, non. Mais il y a un sens extrêmement profond...
Vous êtes en train de me faire une circonférence.
Entre la pierre... Mais pourquoi pas la circonférence? La circonférence, le mouvement permanent. Bon, c'est pas pour rien que dans l'art antique, l'ouroboros, ce qu'on appelait l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, a une forme circulaire. Mais pour en revenir à la pierre, le fait de la pierre du temple, je reconstruirai ce temple en 3 jours, dit le Christ, et Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il y a une dimension sacrée de la géométrie et de la pierre et de pierre église, pierre pape. Hein. Il y a un lien extrêmement intéressant. Alors parmi les grands enseignants des moines, pour reprendre notre circuit, eh bien, on pourrait citer Fortuna, qui a été connu sous le nom de Fortunatien d'Aquilée, évêque d'Aquilée en Italie du Nord, dès le milieu du IVe siècle, qui était d'origine africaine et qui fut auteur d'un commentaire sur les évangiles très utilisé par les moines irlandais. Il fut partisan du Concile de Nicée et s'en départit sous pression impériale. Il y a eu là une page un peu curieuse, bon. Et il a fait condamner Athanase et libérer le credo semi-arien de Sirmium, concile tenu, c'était un concile qui a été tenu en 357. Mais bon, il est revenu après à la foi de l'Église. Pourtant, aussi cultivé fut-il, Fortuna dut bien avouer que des philosophes comme Platon, Aristote, Chrysippe qui a été un philosophe stoïcien grec entre 281 et 205 avant Jésus-Christ, qui avait d'ailleurs étudié les diverses formes de raisonnement et de cela avait retiré 5 matières fondamentales, notamment, il en avait fait des propositions, hein, ainsi que de Pictacus, qui a été philosophe romain peu connu d'ailleurs. Pictacus est peu connu. Ou bien s'agit-il de Pythagos? Là, il y a une question, on ne sait pas très bien, qui a été un homme d'État et sage, un philosophe sage grec de Mytilène à Lesbos, qui aurait vécu vers 570 avant Jésus-Christ, qui par l'une de ses phrases célèbre « Il est difficile d'être bon » avait inspiré Platon dans son œuvre « Protagoras ». Tout ça est possible, fut-il grec, fut-il romain, là, ce n'est pas net.
Alors déjà qu'on est embêté avec son nom Pythagus ou Pythagos, en plus Pythagos de Mytilène... C'est pas sérieux comme nom, ça, quand même.
Ah oui, si vous pensez au Mytilène. Bon. En fait, il apparaît qu'il ne sait pas exactement tout sur ce sujet. Il a du mal à restituer la philosophie grecque antique. Ainsi, il reconnaît qu'il ne connaît pas mieux les pères de l'Église et ose écrire cet aveu. Quant à Hilaire, à Grégoire, à Ambroise, à Augustin, je ne les ai pas lus, et si je les ai vus. Vous voyez, hein, c'est... Il dit que s'il les a vus, c'est à travers un demi-sommeil. Bon, donc, là-dessus, il y a un flou du côté de Fortuna. De son côté, Saint Grégoire de Tours, qui a vécu de vers 540 à 594, reconnaît ne pas bien connaître l'orthographe et la grammaire. Et de cela, il demande pardon à ses lecteurs en disant qu'il est plus urgent et nécessaire de bien connaître les sciences sacrées et que le reste est de peu d'importance. Alors, bien entendu, les écoles ecclésiastiques et monastiques ne pouvait pas se concevoir sans bibliothèque. Aussi, allons-nous aborder ce sujet.
Eh oui, mais vous savez ce que c'est quand vous me dites que vous allez aborder un sujet aussi sec, je vous dis, profitons-en pour tourner une page après une petite pause musicale.
Allez. Normal de tourner des pages dans une bibliothèque.
Absolument. Allez, on va rendre un petit hommage à nos amis qui vivent, des gens du voyage, qui vivent dans des habitats à roulettes et qu'on fait se déplacer.
Mmh. j'en ai les larmes aux yeux. Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Que je n'ai plus de chemise. C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Dans cette caravane, et nous partons, allez, viens, allez, viens. Bientôt mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens. Allez, viens. Allez.
C'était Raphaël, c'était en 2005, donc aucun rapport aux expulsions de Rome, hein. Aucun.
Non.
On est avec Bernard. On est avec Bernard Vacherot. On tournait une page et on disait que dans les monastères, pour apprendre, comme dans les écoles, il y avait forcément une bibliothèque.
Absolument.
Et alors, d'où sortaient les livres, puisque l'imprimerie n'était pas inventée. Il faut attendre la moitié du 15e siècle pour reproduire facilement des ouvrages. Donc, il y avait des moines copistes qui recopiaient,
absolument,
qui faisaient des erreurs, qui oubliaient un S, qui le rajoutaient par-dessus. Ça inventait l'accent circonflexe.
Oui, raconte, c'est pas grave.
On
assiste à des erreurs orthographiques bien pires de nos jours. Bon, et même dans les livres, et même dans les journaux, hein. Bon.
Tant qu'il n'y en a pas dans les dictionnaires, hein. Il manquerait plus que ça.
Oui, il manquerait plus que ça. Hein. Alors, justement, les bibliothèques, bon, l'idée en soi d'une concentration de manuscrits n'a rien de neuf. Hein. On a connu les fameuses bibliothèque de tablettes d'Our.
Je crois que vous alliez me parler d'Alexandrie, on ne l'a pas connu.
Ah, mais j'allais commencer par plus l'ancien.
Ah ouais.
D'Our. D'Our en Chaldée, dont certaines remontent justement de certaines tablettes aux environs de 3 à 4 000 avant Jésus-Christ.
Ah oui.
Bon. On se rappellera aussi des bibliothèques égyptiennes. On se rappellera d'Alexandrie d'Égypte, précisément, puisqu'on parle d'Égypte. Bon. Et puis, on se rappellera de la bibliothèque de Beyrouth, pays que je connais bien, puisque c'est le mien. Bon. Et tutti quanti, comme disent les Italiens.
Mais quand même, la civilisation de l'écriture, on en est sûr, est née entre le Tigre et l'Euphrate.
Oui.
C'est là qu'on a les traces les plus anciennes de documents écrits.
Pour le moment.
Dans le monde connu.
Oui, pour le moment.
Pour le moment, oui.
Bon, en bon scientifique, on est toujours obligé de dire que j'ignore ce que je sais, je sais ce que j'ignore. Hein. Alors voilà. Donc, le principe en lui-même d'une concentration d'écrits n'est pas une nouveauté. Ben, tenez, une bibliothèque que l'on oublie toujours, c'est Bagdad. Bagdad a été un lieu de science extraordinaire hein, en Irak. Donc, c'est pas une idée nouvelle en soi. Mais les moines ont repris cette façon de faire. Alors, ils ont été copistes. Et même, ils ont illustré, parce que l'art et la science vont ensemble.
Les alluminures.
Absolument.
C'est de là qu'elles naissent.
Absolument. Et d'ailleurs, quand on y mettait de l'or, un petit peu, on pourrait parler d'alchimia, l'alchimie. Bon, et oui, la transformation des métaux en or, etc., etc., etc. Vous voyez, on peut aller très loin. Hein. Alors, préserver le savoir a été le travail des moines et des moniales dans leur monastère, moutier ou abbaye ou prieuré. Sauver le savoir des destructions, du pillage, dû à l'inculture des seigneurs, car il faut bien dire que la plupart des seigneurs étaient d'une ignorance énorme, et des hordes de barbares qui envahissaient la Gaule. Bon, n'allons pas croire que certains grands seigneurs étaient des gens cultivés. Par exemple, certains grands maîtres de l'ordre du Temple, comme Hugues de Payens, étaient des illettrés.
Non.
Ah oui.
Et quoi, ils enterraient une fierté
Non.
Non. Il n'y avait pas besoin.
Ils avaient leur chapelain qui était lettré, eux, mais pour beaucoup, ils étaient illettrés. Et ça, Merkel l'a fort bien décrit, justement, dans son livre sur la question de l'énigme des Templiers. Il fait bien certaines mises au point, et il a bien raison de les faire. Certains d'entre eux étaient illettrés. On a vu la même chose chez certains chevaliers de Malte de haut niveau, d'ailleurs. Hein, bon.
En fait, c'était des guerriers, d'abord.
Exact.
Ah, c'est assez étonnant. C'est pas des moines soldats. C'est pas des moines qui sont venus à la pratique de l'art militaire pour défendre des causes, libérer Jérusalem, tout ça. C'est des militaires qui ont choisi de se mettre au service
de ces mêmes causes. Si ouais. Vous voulez, en inversant.
Moi.
Non, en inversant la chose, ce sont des militaires qui se sont mis au service de ces causes. Et mais pas seulement de ces causes-là. Au début, si. Parce qu'au début, c'était ça, leur point. Et puis, malheureusement...
Il a suffi qu'on aille libérer la Terre
aux
Sainte.
Aux environs du XIIIe siècle...
Oui, quand on a libéré la Terre Sainte, qu'on a dit, vous opérez sur la bête, avec ce que vous trouverez.
Non, c'est pas ça. Au XIIIe siècle, et ils ont eu beaucoup de puissance, mais il faut dire aussi, ne l'oublions pas, par exemple, en 1270, Louis IX, Saint-Louis, a perdu Carthage et a perdu la guerre. Donc, si vous voulez, la militarisation protectionniste des pèlerins n'avait plus tellement lieu d'être. Hein. Et comme elle n'avait plus tellement lieu d'être, au point de vue défense militaire, l'ordre de Malte, l'ordre du Temple, n'avait plus lieu d'être en soi. Hein.
Alors, et en même temps, il faudrait savoir s'ils obéissent au pape ou au roi de France. Il faut que les choses soient claires à un moment.
Il fallait que les choses soient claires, les choses ont été très claires.
Le 13 mars 1312. Procès en hérésie.
Mais les choses ont été très claires, n'oublions pas que... le pape Clément V avait voulu très longuement préserver l'ordre du Temple. Bon, et cette année, je me suis rendu pour mes recherches historiques sur Pedro de Luna, Benoît XIII. Bien, je me suis rendu au château de Peñíscola, dans la région de Valencia, et où j'ai été formidablement accueilli d'ailleurs, et j'ai remarqué que ce château porte de nombreuses traces templières, étant donné qu'il avait été d'abord propriété de l'ordre du Temple. Donc, si vous voulez, les liens entre papauté et ordre du Temple ont été toujours assez importants. Hein. Alors, on va revenir maintenant aux bibliothèques. Justement, à Peniscola, eh bien, Benoît XIII, Pedro de Luna, qui est mort en 1423, avait installé une bibliothèque dans la chambre haute d'une des tours. Alors, donc, parmi ceux qui ont préservé le savoir, on va nommer un homme important, Cassiodore. Cassiodore naquit en Italie, en Calabre, plus exactement, vers 485, et il serait mort vers 580, donc un homme très âgé. Il fut un des plus grands fonctionnaires impériaux, de par ses hautes capacités intellectuelles. Vers 540, il choisit de se retirer dans un monastère qu'il fonda lui-même, sans pour autant être moine lui-même. Attention, il fonde un monastère, mais il n'est pas moine.
Ça, c'est un des trucs qui me tue, ça. En France, on a des cardinaux qui n'ont jamais été ordonnés prêtres, là.
Oui.
On fonde des monastères sans avoir été moine. Ça, ça me tue.
Ah, mais ça n'a rien à voir entre les deux genres, hein. Je pourrais très bien, par exemple, fonder un monastère, justement dans un but d'avoir un lieu de silence, de recueillement, d'études, de réflexion, etc., et de l'offrir en même temps à d'autres, comme possibilité pour d'autres.
C'est vrai.
Vous voyez, hein ?
Je reconnais, c'est vrai.
Alors, ce Cassiodore a laissé une œuvre très importante, dont en particulier une chronique universelle et une histoire des Gaules, sans doute rédigée d'ailleurs antérieurement à 540, et forcément c'était l'année de son décès, ainsi que d'autres œuvres, comme un ensemble qui s'est appelé Commentaire des psaumes et, scripturairement parlant, trois types d'écriture furent utilisés.
Là, voilà, je vais avoir des tas de questions à vous poser. Là.
Ouais.
Vous n'allez pas pouvoir me répondre aujourd'hui.
Ah, j'ai compris.
Alors, on va se retrouver la semaine prochaine.
D'accord, l'ami.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.